la question qui est posée, c'est un peu d'apprécier, c'est pas d'apprécier le mouvement de la surmédicalisation, on y est sur petite part. C'est d'apprécier un petit peu l'évolution générale et un tout petit peu notre.
Merci.
Et un tout petit peu nos contributions et nos limites. Et surtout nos limites. Parce que c'est une vraie question qui est posée. Donc, c'est vraiment un survol rapide. L'idée, c'était de tenter une rétrospective. C'est un peu ambitieux. J'avoue que l'effort est, depuis notre dernier colloque, pour comprendre ce qui a bougé et dans quel sens. Du point de vue des méthodes, tout le temps, on essaie d'interroger les rapports des événements qu'on pointe par rapport à la sur- ou la sous-médicalisation et de voir un petit peu ce que ça signifie, un peu du point de vue de Princeps, quelle a été notre présence ou notre participation. Les sources, on a utilisé délibérément les sources grands médias, la télé, les journaux, grand public et quelques revues spécialisées. C'est un choix délibéré. C'est-à-dire, enfin, en tous les cas, de mon point de vue, ce qui est déterminant, c'est l'évolution de l'opinion et des consciences. Plus que seulement les milieux avertis ou qui sont déjà initiés. Alors, on a pris une série, évidemment, dans des ordres, pour rechercher un certain ordre, quelque part. Évidemment, le dépistage, et en particulier celui des cancers du sein, nous préoccupe particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a eu un événement, vous avez vu, la focalisation autour des EHPAD. Il y a eu le débat et les mesures autour des vaccins et de la vaccination. Il y a eu autour des médicaments, à la fois le scandale aux États-Unis, mais aussi en partie en Europe sur les opioïdes et leur usage massif et catastrophique. Il y a eu la crise, dit-on, de l'hôpital. Il y a eu le colloque de la HAS en novembre dernier, Madame va nous en parler tout à l'heure, qui, à mon point de vue, représente un événement. Il y a eu le glyphosate, le feuilleton du glyphosate, etc. Et surtout, il y a des séries de documentaires qui ont alerté l'opinion sur la malbouffe, sur les atteintes à l'environnement, mais aussi sur les questions d'atteinte à la santé, de logique marchande. Vous avez vu quelques émissions. On va essayer de faire un survol très rapide et très incomplet de quelques aspects de cette série orientée, évidemment. Alors, très rapidement, sur la vaccination et les vaccins. Malheureusement, on peut dire qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée après des décennies où la vaccination est rentrée dans les pratiques sociales comme un fait de progrès. La crise de confiance s'est installée, de notre point de vue, à partir de la gestion de la vaccination anti-hépatite B et de ce qu'il y avait derrière, à partir des doutes sur certains adjuvants, et surtout lors de la gestion de la grippe H1N1, les erreurs de gestion, de communication, l'absence de rectification, et surtout d'évaluation critique partagée avec les gens. Les pouvoirs publics auraient pu dire, on s'est trompé. Voilà, on a surestimé, et ça aurait rassuré l'opinion. Malheureusement, on a dit, non, on avait raison, mais les gens ne comprennent pas, il faut leur expliquer, comme toujours. Et puis, il y a eu les histoires sur les grippes saisonnières. On n'explique pas assez aux gens la complexité d'avoir un cocktail qui soit au rendez-vous des évolutions qu'on ne maîtrise pas, des mutations diverses et variées. On a surévalué la mortalité saisonnière, etc., etc. Et tout ça, chaque fois, insuffle un petit coin de doute et a généré cette crise de confiance, évidemment, qui a favorisé aussi tous les courants obscurantistes, toutes les chapelles étroites. Mais en général, au lieu de reconnaître les déficits dans la gestion de tous ces événements, on met le doigt sur les opposants, les irréductibles, etc. Et puis il y a quelque chose qui est passé inaperçu, qui à mon avis est très grave, c'est que la France, pays producteur, et en général nanti, a commencé à connaître le syndrome des pays en voie de développement, c'est-à-dire des pénuries. Il n'y avait plus de BCG, Il y a une partie des vaccins qui n'étaient plus disponibles parce que les lois du marché mondialisé ont fait qu'il était plus rentable d'aller vendre en Asie ou en Inde ou en Afrique que de vendre en France des vaccins qui n'étaient pas intéressants pendant qu'on a fait une offre qui est devenue maintenant une loi et une proposition, c'est les 11 vaccins. Donc la question que l'opinion continue à se poser à juste titre en partie, c'est pourquoi avoir allongé la liste ? Même s'il y a des vaccins indispensables et reconnus et prouvés, pourquoi avoir allongé la liste ? Et ce qui est le moins admissible, c'est de revenir au modèle de l'autorité sanitaire du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire l'obligation. Dans un pays quand même cultivé où les gens peuvent adhérer par la conscience. Ils n'avaient pas de ce genre de problème. Donc vous voyez bien que les raccourcis. En parenthèse, cette obligation, c'est quand même la traduction d'une forme de retour de la culture autoritariste. Je vous épargne les commentaires par ailleurs. Sans parler du scandale de la dengue, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais alors il y a des liens d'intérêt, les enjeux financiers, il y a une sous-humanité qui est là pour servir d'alibi sur les promesses éternelles, sur le palu, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire en matière de vaccin et vaccination, en matière de surmédicalisation, et qu'est-ce qu'a fait Princeps ? Princeps a écouté, a compati, ne s'est pas beaucoup exprimé sur la question. Du point de vue de la surmédicalisation, il est évident qu'ajouter un vaccin de plus n'est pas forcément un gain du point de vue de la gestion. Peut-être qu'il y a d'autres dimensions qu'il faudra regarder. La crise des EHPAD, on ne pouvait pas la taire. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert d'un seul coup que le taux de sinistralité dans les conditions de travail, du fait des conditions de travail des personnels dans les EHPAD, était supérieur au taux de sinistralité le plus élevé de France, celui des BTP. Vous vous rendez compte de ce qu'on a découvert ? Et ça, ça fait 3 ans déjà, de manière successive. Pour la première fois, on a relié conditions de travail et conditions de soins. Comment une soignante peut prendre soin quand elle-même est en souffrance ou maltraitée par les organisations et les conditions dans lesquelles elle évolue. Et puis surtout, la poursuite de la médicalisation de l'existence, malgré les progrès, on continue à penser que la fin de vie ne peut être qu'en établissement, même si la moyenne d'âge a beaucoup évolué depuis, mais c'est une vraie question. Donc, quid de la surmédicalisation dans cette affaire ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a noté une chose qui est très intéressante, et je crois qu'il y a un collègue qui va en parler mieux que moi sur cette question, c'est les progrès dans la déprescription chez les personnes âgées. Ça, on note de partout des efforts, une sensibilité et des pratiques nouvelles extrêmement rassurantes. À l'hôpital, non pas une crise, mais des crises. Avec beaucoup de discours autour et un gros malentendu qui persiste de notre point de vue. Il y a une crise de la gouvernance, c'est un mot à la mode, je n'aime pas beaucoup, pas plus que Michel Thomas. Voilà, c'est donc, il y a un problème, il y a eu un problème de gestion. Au fond, est-ce que c'est une gestion partagée, une gestion qui associe des collectifs, qui ont un haut niveau de technicité et d'implication, ou est-ce que c'est une gestion de plus en plus personnalisée, autoritaire et soumise. Vous l'avez vu, les directeurs d'hôpitaux aujourd'hui, c'est les premières victimes du système. Il faut qu'ils soient au top du point de vue de l'équilibre financier. Il y a une crise du financement. On est passé de budget à l'enveloppe au budget à la rémunération à l'acte. Voilà ce qu'on a gagné avec les 2 ans. Bon, maintenant, on le reconnaît. Ce n'est pas une bonne option. D'accord ? On prouve même qu'on devrait en finir, mais ça continue. Le budget 2018-2019 est encore calé sur la T2A. Plus grave et en lien, c'est la crise de sens. C'est-à-dire que les gens considèrent que leur rôle maintenant, c'est de courir après des actes et non plus réaliser un service en continu dans des conditions particulières de relations humaines, etc. Et puis il y a une crise de positionnement. On en parle beaucoup moins. Ou on en parle de manière qui n'est pas notre angle de vue. C'est-à-dire, on dit l'hôpital, il faut qu'il se préoccupe de l'amont. Il faut qu'il se préoccupe de l'aval. La vraie question, ce n'est pas celle-là. La vraie question, d'ailleurs, Mme Buzyn n'arrête pas de le dire de manière très, très explicite et très intelligente, et en même temps de faire le contraire. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il y a une crise de système. et non pas de l'hôpital. C'est la crise de l'amont, de l'hôpital et de l'aval. L'hôpital ne peut pas être le premier, le seul et l'ultime recours. Et au lieu de prendre position sur ça, on continue à responsabiliser l'hôpital de la réforme de l'ambulatoire. En vérité, on ne veut pas toucher à l'ambulatoire. Vous savez bien pourquoi. Du point de vue de la surmédicalisation, on est au cœur ici. Parce que le poids de l'hôpital, vous savez ce que ça veut dire, dans les dépenses, dans la pratique de soins, dans la représentation sociale, dans la concentration des ressources, et puis c'est surtout le lieu des spécialités, des approches par organe et des investigations plus lourdes. Princeps a toujours eu un intérêt et des travaux sur la réhabilitation de la médecine générale. Seul un rôle premier de l'amont peut décharger l'hôpital de tout le poids qui n'est pas le sien, sans compter le rôle de l'aval. Bon, là où Princeps est encore très limité, c'est notre réflexion sur ce qu'on appelle les soins de santé de base, les soins de premier recours, les soins de première ligne, mais c'est aussi nos faiblesses qu'il faudra regarder de près. Le lévothyrox, on ne pouvait pas ne pas en parler. Hein. Finalement, c'est quoi le lévothyrox qui a tant occupé les gens? Est-ce que c'est un problème d'adjuvant? Il semble, mais enfin, rien n'est vrai. Est-ce que c'est un problème d'information des patients? Est-ce que c'est un problème de coordination entre les autorités et l'industrie, et les soignants, et les patients? Est-ce que c'est un problème de marketing? Est-ce que c'est un problème de stratégie commerciale? Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui ose dire que c'est une... On a adapté l'adjuvant par rapport à...
La tolérance aux lactose des Chinois.
Bon, voilà, je vous laisse perplexe devant ces questions. Ce qui est sûr, c'est que... vous savez qu'il y a 3 millions de personnes qui sont sous traitement, pour certaines indiquées, pour d'autres probablement trop vite, et que les liens d'intérêt et la question de la transparence ont été notre credo sur cette affaire. Le lévothyrox, ce n'est pas une affaire fine. Le dépistage des cancers, alors très brièvement là aussi, un survol sur le sein, le programme laborieux qui a été construit sur 3 décennies, jamais un programme de santé publique, ou considéré comme tel, n'a eu autant d'efforts, n'a mobilisé autant de ressources. Une controverse qui a fini par être entendable, a mis du temps, hein. 15 ans pratiquement, pour qu'on puisse dire, oui, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, qui prouvent autrement, qui disent autrement. Une concertation citoyenne qui a eu lieu, pour de vrai, que nous on considère inaboutie. Parce que les conclusions n'étaient pas franches, mais même intéressantes pour ce qu'elles étaient, elles n'ont pas été prises dans leur esprit, elles ont été prises à la lettre de manière extrêmement... finalement, ni l'INCa ni la DGS ne croient au résultat de la concertation. Bon, finalement, pourquoi la faire? Vous voyez ce que je veux dire? On fait appel aux citoyens, ils voulaient une validation d'une stratégie sur laquelle eux-mêmes ont des appréhensions. Je vous informe que le risque judiciaire commence à courir. Il y a de plus en plus de femmes qui portent plainte. Ça serait bien dommage d'en arriver là. Mais c'est un peu ça. Et puis ça tombe bien, il y a la crise, il faut restreindre, il faut gérer la restriction. Donc il y a un état, moi, que je qualifie de désintégration irresponsable ou de démobilisation d'un dispositif qui n'est pas dit. C'est-à-dire qu'on parle maintenant d'informer les femmes, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas tout. Quand même, il faut que les autorités assument et que les professionnels sachent quoi dire. Renvoyer à la femme la balance bénéfice-risque, avec toutes les complexités que vous soyez, ne suffit pas. Ne suffit pas. Sauf à vouloir tout rejeter sur elle. Les campagnes ont été arrêtées officiellement. Le rose a été remplacé par l'orange, il faut que vous le sachiez. Et puis, on fait de la dématérialisation qui n'aboutit pas. Qui n'aboutit pas à la dématérialisation. C'est la transmission des données, des flux de données directement par voie numérique. Les données des mammos, les données des suivis de la première, la deuxième, la troisième lecture, etc. Et la régionalisation, c'est le même mouvement partout. Dès qu'on a des difficultés de choix ou de politique, on réorganise, on régionalise, on concentre, on fuit dans, y compris la numérisation. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que S'il y a une désintégration, les premières victimes, c'est les femmes, c'est l'opinion, c'est la confiance dans les politiques publiques, c'est dans un programme qui a rapporté, qui aurait pu rapporter plus s'il était évalué globalement. Et surtout, ça se fait au détriment des autres organes. Le colorectal, lui, par exemple, pour lequel il n'y a pas de controverse ouverte, pas à ce jour, eh bien, lui, il ne bouge pas le taux de couverture. Très peu, malgré le changement de test qui coûte 3 fois plus cher que le précédent, qui est plus sensible, plus fiable, évidemment. Et une implication plus grande des médecins généralistes. Le col de l'utérus, encore des expérimentations. On fait des expérimentations. Ça fait 10 ans qu'on est en expérimentation pour élargir le frottis. Bon, il faut dire qu'entre-temps, le brouillage avec le vaccin d'abord, frottis d'abord, vaccin après, les deux en même temps, etc. On en est toujours là. Vous savez ce que c'est les surdiagnostics et les surtraitements. Princeps s'entraîne notamment, on s'est surtout centré sur le sein, beaucoup moins sur les autres organes. Sur le sein, il y a une participation à la concertation, il y a une journée d'études qui a été organisée et un communiqué qui a été pondu et qui, évidemment, n'a eu aucune résonance. Les médicaments. Les médicaments, c'est notre thème chéri. C'est-à-dire, nous considérions que probablement que c'était le secteur dans lequel la surmédicalisation avait le plus ravagé et dans lequel on pouvait gagner le plus en pertinence de soins, mais aussi en économie, et y compris en réduction des risques. Mais on a souvent parlé de médicaments essentiels, d'essentiels, on tourne toujours autour du pot. Et pas seulement en France, un peu partout. On part d'autoprescription, on revient à l'histoire d'autoprescription, comme si c'était une panacée. On met en avant les contrefaçons, comme si les contrefaçons n'avaient rien à voir avec les lobbies qui ont surenchéri les prix, qui ont mis des pays en difficulté. Et de toute façon, la contrefaçon va de pair avec les façons inavouables. Et on pointe des surconsommations de produits. Tel produit, effectivement, est mis régulièrement sur la sellette, est évalué. Bon, vous avez vu l'histoire des opioïdes, des antidépresseurs, et chaque fois des anabolisants, la liste est interminable. Ce n'est pas une remise en cause globale, c'est une remise en cause de certains produits. La résistance, les intérêts, les pratiques et les consciences, elle est toujours aussi forte. Même si la confiance est ébranlée. Il n'y a plus la même confiance. Mais les gens l'accordent quand même parce que c'est compliqué. Deux idées sur lesquelles on s'est battu qui ne passent pas, celle d'une liste restreinte. Celle-là, elle ne passe pas. Une liste restreinte. Dans une civilisation d'abondance, où le progrès humain est au bout du progrès technique, du progrès des marchandises, etc. Elle ne passe pas. Elle ne passe pas, même avec les plus convaincus, les plus proches, dans les milieux les plus ouverts, elle ne passe pas, cette idée. Donc on a un vrai problème avec. Bon, est-ce qu'elle est toujours valide? C'est une vraie question qu'il faut poser. Et puis celle de produits éprouvés. C'est-à-dire, on est sur les produits innovants et pas sur les produits éprouvés. On reste prisonnier de cette conception, mais peut-être que c'est nous qui sommes en dehors du temps. Un mouvement semble engagé, c'est celui de la déprescription. J'en ai parlé chez les personnes âgées. La question est de savoir si la déprescription des médicaments chez les personnes âgées, c'est uniquement une histoire de segment ou c'est une étape. Est-ce que c'est uniquement le segment des personnes âgées, de la polymédication, qui est problématique? Ou c'est peut-être une étape vers une déprescription plus large, touchant les autres catégories d'âge. Bon, du point de vue de la surmédicalisation, elle est évidente. Sur Princeps, on a fait beaucoup de publications, d'efforts, d'interviews, de participation à des colloques, de présence dans les universités de santé publique, de modules sur le médicament. Ces deux idées ne passent pas. Il faut qu'on ait le courage de le reconnaître. La notion d'une liste restrictive et des médicaments essentiels a beaucoup de mal à passer, beaucoup de mal à les partager. La science et les publications, j'ai mis la science entre parenthèses, j'aurais dû même la mettre en majuscule, vous savez bien qu'elle était sur un piédestal, elle a l'air un peu... Alors il y a maintenant des levées de voile sur les publications, sur les biais, sur l'intégrité, sur les liens d'intérêt. Et puis, on a du mal à prendre en compte les progrès scientifiques sur le fond, c'est-à-dire la question de la relativité, de la complexité, du poids, des incertitudes. C'est quand même des notions qui ne sont pas évidentes et qui nous posent question. Il y a eu des avancées évidentes parce que des revues prestigieuses se positionnent de plus en plus, des auteurs aussi. Le JAMA, je vous passe sur ses travaux. 10 articles ont fait l'objet d'un consensus pour leur impact le plus grand parmi les publications de 2016 analysées en 2017. Et puis, il semble que de plus en plus, même le Lancet régulièrement, il fait des éditos sur le surusage, l'usage inapproprié. Et il semble que ça soit une idée porteuse. Bon, elle n'est peut-être pas fondamentale, ce qui est sûr, c'est que le glyphosate, un feuilleton, enfin reconnu, après 15 ans de Roundup, familier quand même, après avoir été connu depuis, et une bataille à découvert, jamais un produit et sa toxicité n'a été abordé sur la place publique française ou européenne ou dans le monde, à visage aussi découvert. C'est-à-dire, les intérêts sont là. Et on use de toutes les pesanteurs pour les défendre, mais les intérêts sont encore plus forts que l'opinion et les expertises. On est encore au compromis, encore 5 ans, encore 3 ans, mais peut-être dans 3 ans, on ne sera pas prêt, etc. La pertinence des soins. Voilà une avancée conceptuelle, à la fois conceptuelle et des approches. Mais évidemment que le terme de pertinence est le plus approprié, hein. Même au-delà de la surmédicalisation. La question, c'est le juste soin. Là où il faut, quand il faut, pour la personne qu'il faut. Et du point de vue de l'évolution conceptuelle, on est passé de l'efficacité, de l'efficience, à la sécurité, à la qualité, et maintenant à la pertinence. C'est un progrès indéniable du point de vue intellectuel. Le colloque HAS, de notre point de vue, un vrai événement, si ce n'est pas un événement isolé. Le thème d'abord, pertinence des soins, les invités de grande qualité, étonnant, c'est vrai, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, c'est un beau colloque. Vous l'avez toujours en ligne, je crois, il est toujours en ligne. Et les exposés, les débats étaient de très grande qualité, une participation impressionnante, beaucoup de gens institutionnels qui étaient présents, donc un impact considérable. Pour quel prolongement, la vie nous dira, et puis la représentante de la HAS va peut-être nous aider à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que c'est un événement qui ne devrait pas passer inaperçu à nos yeux. Voilà, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, et c'est peut-être annonciateur de quelque chose. Bon, le système, il a la vie redoutable, il sait recycler même les idées nouvelles. Bon, mais peut-être une série de documentaires grand public sur les médias lourds, mais je ne sais pas si vous suivez la 5, Arte, l'IS-UC, machin, etc. On a le tournis, quoi, la thyroïde, le stéoporose, la malbouffe, les environnements. Et toujours, c'est la même chose, lien d'intérêt douteux entre ceux qui ne devraient pas être en relation incestuelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y a une levée des voiles? Est-ce que c'est des gages pour dire que le système, même à côté de sa plaque, est vivant, est capable de se remettre en question? Est-ce que c'est des manœuvres? Est-ce que c'est tout à la fois? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu parmi tous les documentaires un magnifique qu'on avait vu, c'était sur l'exemple de la Suède et de leur système de soins. Eux, la question de la surmédicalisation, elle est clairement prise en compte, le niveau ambulatoire organisé sur notre base, etc. Il y a eu une belle table ronde qui a été faite même par une émission culte, hein, par Michel Simas et comment ça s'appelle ?
Carrel.
Et vous voyez de dos, malheureusement, je n'ai pas assez valorisé, notre ami Alain Siary qui a fait une prestation dont nous étions tous fiers, parce qu'elle était opportune. Et après Jean-Claude Salomon, lors du colloque de la HAS, M. Siary a osé dire « princeps ». Et d'ailleurs, Michel Simas lui dit « c'est quoi princeps ?» On en parlera, on en parlera. C'est pas de princeps qu'il s'agit. C'est de ce qu'il a dit et de ce qui a été dit lors de cette émission, où il était question du seuil. Hein, des bases de détermination et des critères de seuil. Des experts, des professionnels, des institutions, des associations et des ONG prennent de plus en plus la parole, la plume ou des initiatives. Quand même, il faut quand même noter. Et on l'a vu lors du colloque de la HAS, les Italiens, les Allemands, la campagne de Choosing Wisely a fait des adeptes et même la FHF a signé la Choosing. Je l'ai découvert comme ça, sans date, j'étais épaté. La FHF, Fédération Hospitalière de France, elle a signé. Bon, ben j'espère. Hein? Oui, elle a signé. J'espère qu'elle persistera. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, mais c'est étonnant. Vous avez vu ce truc qui est tombé comme ça du ciel d'un seul coup. On était à 14,9, on est remonté à 16,9, puis d'un seul coup on redescend à 12. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment un pic hypertensif. C'est-à-dire qu'il y a un blême. Il y a un blême sérieux. C'est-à-dire qu'il n'a pas été suivi par les autres. Les sociétés de cardiologie, les mineurs, ou un peu impressionnés par les Américains, ont été mis mal à l'aise, hein, pour dire la vérité. Avec mon ami Michel Thomas, on a parcouru quelques lieux.
Oui, c'est fondé sur une publication qui s'appelle Sprint, mais qui est bourrée de biais méthodologiques.
Mais oui, mais la question c'est pourquoi ils ont sorti ça au moment où même les assureurs commencent à avoir ras-le-bol de débourser. C'est ça la question qu'il faut comprendre. C'est pas quand même des enfants de cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils nous sortent une telle gourde? Je vous dis à tel point que les sociétés de cardiologie sœurs, ben, elles ont quand même un peu pâli de
ben non, pas suivi. La European Society of Cardiology n'a pas suivi.
N'a pas suivi, mais c'est ça le problème. C'est donc là, c'est une gourde, c'est un coup à la Trump, c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Est-ce que c'est des faits? Évidemment, cette liste est sélective, elle est orientée, elle est partielle, elle est rapide. Voilà, vous avez compris que nos limites. Mais est-ce que c'est des faits, des actes de résistance, d'éveil? Est-ce que c'est des faits, des actes isolés ou des métastases d'une tumeur prometteuse plus grosse? Je ne sais pas. Ben, voilà. Est-ce que ce phénomène est le propre des pays nantis et saturé, et peut-être même de plus en plus conscient, ou est-ce que aussi dans les pays démunis et encore illusionnés, il fait des avancées? C'est des questions qu'on ne peut pas ne pas se poser si on veut évaluer comment les choses évoluent. Dans tous les cas, il n'y a pas surmédicalisation autour de chacun des faits, des produits, des situations qu'on a citées. Mais toujours, même pas directement des fois, mais toujours on a retrouvé la même chose, les liens d'intérêt, le manque de transparence est une constante dans tous ces éléments qu'on a signalés. Princeps, dire cela, quand on dit cela, ça nous oblige nous à réajuster, à comprendre que peut-être qu'on ne peut pas avancer tout seul, peut-être que les choses sont moins simples. Vous rappelez qu'au dernier colloque et à l'avant-dernier, on avait convenu de ce type d'entendement sur surmédicalisation. Un, trop de soins en termes d'actes, de diagnostic, d'investigation, de prescription inappropriée et de soins. Une réponse de nature médicale à des questions psychologiques, sociales, économiques, voire existentielles. La résultante de pression des producteurs, entre guillemets, sur les prescripteurs, les opérateurs et les décideurs des systèmes de protection sociale et du système de soins, ou des déplacements délibérés ou de fait. C'était les entendements sur lesquels on avait un peu convenu. Alors, les points de vigilance, de réflexion, de débat qui s'imposent à nous, je vous en propose juste quelques extraits. Un, la confiance est entendue, c'est sûr. Mais dans le même temps, il faut comprendre qu'elle est toujours accordée. Sur les questions de santé et de soins, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire, à la fois, je n'ai pas confiance et j'ai confiance. C'est ce paradoxe qu'il faut apprendre. Les gens ont confiance dans la médecine. Et en même temps, la confiance est en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, la confiance est indispensable, y compris à la relation de soins. Je ne peux pas me fier, me plier, adhérer si je n'ai pas un peu confiance. Donc, il y a un vrai challenge autour de la relation de confiance. La sensibilité, la spécificité des questions que nous traitons, à la différence de la malbouffe, à la différence qui a un lien avec la santé, bien sûr, mais les questions de soins, les questions de maladie, les questions de la mort sont un peu compliquées dès qu'il s'agit de soi ou de ses proches, même chez les gens les plus avisés. C'est drôle, hein, des gens extrêmement attentifs sur ces questions. Quand il s'agit d'eux ou de leurs proches, ils perdent la boussole. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà. Ne dites pas à quelqu'un qui est désespéré, ce médicament n'est pas approprié. Cet acte n'est pas utile. Ce protocole de soins n'est pas indiqué. Voilà. Il y a une vraie question, psycho, je ne sais quoi, qu'il faut prendre en compte si on ne peut pas être à côté de notre plaque. Et puis, il y a trop de pression et d'injonctions contradictoires. Les gens sont confrontés à un champ de dilemmes terribles, au quotidien. Au quotidien. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas sortir cela, il faut pas... Si on leur ajoute, nous, les médicaments, ce n'est pas tout sûr, les soins ne sont pas tous appropriés, les protocoles qu'on vous suggère, les... ça fait beaucoup. D'autant que les registres de la peur, celui des émotions, ne sont pas productifs sur le fond et la durée. On ne peut pas mobiliser les gens ni par la raison, ni par les émotions. Alors quel est le ressort qu'il faut trouver? La prise de conscience est lente et elle ne se dispense pas de l'épreuve directe. Je veux dire. C'est-à-dire que c'est quand les gens se heurtent à des situations concrètes que leur conscience à ce moment-là rattache avec des éléments d'information, de conscientisation, etc. En d'autres termes, ne doit-on pas continuer à agir de notre manière, modestement, en rectifiant nos limites, etc., mais chacun de son côté, parce que se fédérer, c'est... mais en restant plus attentif que jamais aux interactions et aux conjonctions. On ne peut pas faire sans les autres partenaires qui travaillent sur ces questions, on ne peut pas faire sans les réalités, on ne peut pas faire sur les conjonctures favorables ou défavorables, etc. Rapidement, il y a quelques références que je cite, sur, mais vraiment quelques-unes, qui nous ont servi de source d'alimentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.